Louis Albrun nous rappelle combien au cours du temps la frontière franco-italienne a été mouvante. Il évoque les femmes et les hommes qui s'y sont illustrés. Depuis l'époque romaine, elle fut un lieu d'échange et de passage de César à Napoléon. Aujourd'hui, elle reste une ligne de partage entre deux territoires qui ont du mal à coopérer. Louis Albrun, médecin et écrivain, a répondu à mes questions.
Louis Albrun, vous êtes écrivain, médecin, conseiller régional, et vous êtes passionné également d'histoire locale. Quel est le rôle de la frontière franco-italienne dans l'histoire de notre terroir ?
Ce rôle est central, puisque nous sommes une terre de ce qu'on appelait chez les anciens des marches, c'est-à-dire les terres à l'extrémité du royaume, qui nous ont séparés longtemps, bien avant l'Italie, des États italiens, etc., Piémonté. Donc cette frontière a été fondamentale pour structurer à la fois le paysage par l'école, puis surtout notre histoire. Alors les échanges culturels franco-italiens remontent très très loin, puisque déjà à l'époque de Cotus a harmonisé les langues et les cultures. Puis ensuite il y a eu, on connaît le passage par César du col du Mont-Genèvre. Donc il y a eu toujours un échange à travers l'histoire, et puis parfois pacifique, parfois guerrier. La lutte aussi chez les paysans, chez le peuple, pour étendre les alpages, il y a eu des bagarres mémorables sur les frontières qui ont changé dans le temps, puisque avec le traité d'Utrecht notamment, la frontière a été très mouvante. Puis il y a eu surtout Hannibal, le fameux Hannibal qui est passé par les Alpes. Alors il y a plusieurs théories, le général Guillaume prétendait qu'il était passé par le Guillestrois, d'autres pensent qu'il est passé par le Mont-Genèvre, d'autres encore qu'il est passé par la Maurienne, par la Tarentaise, par Darantasia qui était la ville de Moutier à l'époque. Peu importe, l'important c'est que notre territoire, notre terroir a été une terre de frontières. Et puis il y a eu au XIIe siècle l'épisode des Vaudois qui étaient des... Pour reprendre la belle citation de René Sestrung, notre ami malheureusement disparu, qui était des sautes frontières, c'est-à-dire que quand les autorités ecclésiastiques les pourchassaient en France, ils se cachaient en Italie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Italie, et quand du côté italien ils étaient pourchassés par le duc de Savoie, ils venaient se cacher dans les hautes vallées du Queyras, de la Valouise, de la Fraissinière, etc., etc. Tout le monde connaît ça. Puis tout le monde connaît aussi l'épisode de Saint-Vincent Ferrier qui a essayé de passer les frontières pour essayer de les ramener à la foi catholique. Et puis c'était une terre de sorciers, de sorcières aussi. Il y avait un spécialiste des sorciers qui s'appelait Tolosan qui a lutté contre les sorciers au niveau des différentes frontières. Et puis c'était aussi un lieu de pèlerinage. Plus tard, au Moyen-Âge, les chrétiens aussi bien d'Italie que de France allaient se déplacer, traverser la frontière, se parlant du Briançonnais, aller faire le pèlerinage de Rochemelon dans la vallée de Suse. Et aujourd'hui, dans les temps modernes, suite à l'apparition de Benoît du Lot au XVIIe siècle, beaucoup d'Italiens viennent en pèlerinage au Lot. Et puis il y avait l'aspect militaire, beaucoup de fortifications, il y a Exil, où a séjourné le Masque de Fer, puis il y a Briançon, il y a le Queyras, il y a Château-Queyras, il y a Mont-Dauphin, etc. Il y avait aussi, bien sûr, la garde militaire, puisqu'il fallait protéger les frontières. Et on connaît notamment sous Louis XIV les grandes batailles, la bataille de l'Assiette, très près de l'actuelle station de Sestrières, avec les belles histoires du maréchal Belle-Île, etc. Vous voyez, cette histoire est très riche, et si notre histoire est riche, c'est essentiellement parce qu'il y a eu ces frontières. Il y a eu aussi le retour des Vaudois, puisqu'on a parlé des Vaudois avec le capitaine Arnaud, qui était pasteur né à Embrun, ensuite réfugié en Suisse, qui a fui avec les Vaudois de nos vallées vers le bord du lac de Lausanne, et ensuite revenu, et par la bataille de Saint-Bertrand, etc., et revenu avec ses Vaudois. Et puis il y a eu d'autres petites histoires, mais qui ont rejoint l'histoire, la grande histoire. Je pense par exemple aux ancêtres de Frédéric Chopin, qui sont nés à Saint-Grépin au XVIIe siècle, pris dans les histoires de Gabel, de trafic de sel, avec le royaume de Sardaigne et d'Italie, ils partent, ils passent par le col du Mont-Genèvre, et ils vont en Pologne, où naîtra Frédéric, le grand musicien mondialement connu. Et puis enfin, l'épopée napoléonienne, bien sûr, avec le col de Mont-Genèvre, Napoléon qui est passé par le Mont-Genèvre, et passera ensuite, de façon plus pacifique, en 1799, le pape Pie VI, que le même Napoléon veut ramener à Rome, puisqu'il a pris les états pontificaux. Mais le pauvre Piscis dort à Briançon. Il est chassé de Briançon par Bernard l'Aveugle. Alors Bernard l'Aveugle, un personnage conséquent de Briançon, qui était un mathématicien de génie, mais très contestataire. Et il dit, il faut que le pape parte. Il part, il dort à Saint-Grépin. Et puis, il meurt quelques jours après, en arrivant à Valence. Il n'arrivera jamais à Paris, comme le voulait Napoléon. Voyez, cette frontière a été un point important de passage pour les plus grands de l'histoire, Hannibal, Napoléon, mais aussi pour les petits, pour les colporteurs, les marchands de livres, de beaux objets, de baumes médicinaux, de dentelles, etc. Voilà la richesse de ces frontières sur lesquelles il y aurait tant à dire. Et aujourd'hui, eh bien, par exemple, la station de Montgenèvre, par la Voie lactée, est reliée à la station italienne, à côté de San Sicario. Donc on voit que cette notion de frontière va en disparaissant avec l'Europe. Aujourd'hui, on n'est plus rarement arrêté par les douaniers, on peut aller facilement en Italie, ce qui n'était pas le cas dans l'histoire. Donc intéressons-nous à sauver ce patrimoine à la fois matériel et immatériel, ce patrimoine haut-alpin lié à la notion de frontière.